Pour raconter son monde, l'homme fit de son imagination un univers. C'est au sein de cette tentaculaire fresque d'œuvres qui tapisse notre imaginaire que nous allons plonger pour tenter d'en dresser les contours. Bienvenue dans la cartographie de l'imaginaire.
Calling. Calling. Calling still. Then the ocean breaks.
Hello?
There's a mercenary out back. He's been hanged. The body has been there for a week now. The locals probably got tired of it and called the cops.
Hello. I'm Kim Kitsuragi.
Time to get to work.
Bonjour tout le monde, c'est encore moi Achille et on se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode de la cartographie de l'imaginaire. À l'éternelle question de fin de soirée, c'est quoi ton film préféré? Je réponds souvent, j'en sais rien, parce qu'il y en a trop. C'est faux, c'est Les Indestructibles. J'évite de répondre à la question surtout parce que celle d'après c'est souvent pourquoi. Est-ce que c'est mon film préféré? Oui. Pourquoi c'est mon film préféré? J'en sais rien. Un constat qui s'étend ailleurs. Mon manga préféré, Vinland Saga. Pourquoi? Je sais pas. Mon album de musique préféré, Neverodroven, Die Monster. Pourquoi? Je sais pas. Mon jeu vidéo préféré, Disco Elysium. Pourquoi? Je sais toujours pas. Est-ce que ces œuvres sont mes préférées parce qu'elles sont arrivées à un moment particulier de ma vie et que j'y associe des souvenirs positifs? Est-ce que c'est parce qu'elles m'ont fait découvrir un genre tout entier? Est-ce que c'est parce qu'elles m'ont offert des clés de lecture sur le monde qui m'entoure et sur moi-même, pour mieux comprendre et interpréter les choses de la vie? Est-ce que c'est parce que les thèmes abordés résonnent avec mon histoire personnelle? En y réfléchissant bien, c'est peut-être surtout ce dernier point qui a de l'importance. Les Indestructibles abordent le thème d'une vie de famille difficile malgré un amour total et absolu entre tous les protagonistes. Vinland Saga parle de l'importance de se trouver une raison de vivre et de communiquer avec les autres avec empathie et amour. Et Neverodroven n'aborde rien de particulier, mais toute l'ambiance de l'album est tellement douce qu'elle sonne comme un rappel de la nécessité de se détendre et de flâner. Et Disco Elysium? Eh ben, j'ai fini le jeu il y a un mois, donc j'en ai aucune idée. Pourtant, je suis certain qu'il est devenu mon jeu vidéo préféré. Alors me voilà de nouveau bloqué à la première question. Pourquoi cette œuvre-là spécifiquement m'a marqué? Alors laissez-moi vous embarquer dans une partie du récit de son développement. Accompagnez-moi dans ma tentative de démêler les sentiments que j'ai pour ce jeu en tentant de les comprendre à travers l'histoire de sa création et l'histoire qu'il nous propose de vivre.
There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscience ferments in it. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever.
La première scène du jeu est celle de votre réveil. Pas vraiment d'une nuit de sommeil, mais plutôt de trois nuits, d'une beuverie tellement monumentale que vous avez tout oublié. Votre prénom, votre métier, le nom de la chambre d'hôtel dans lequel vous venez d'ouvrir les yeux, et surtout vos fringues. À peine debout, votre histoire commence en sous-vêtements dans une chambre d'hôtel dévastée, avec la voix de votre conscience qui tente doucement de vous faire comprendre que, cette fois, vous êtes vraiment dans la merde. Voici donc la première quête et le premier fil conducteur narratif du jeu. Retrouver votre mémoire, comprendre où vous êtes, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et de façon plus concrète et plus urgente, vous venez d'apprendre que vous êtes censé être un flic en pleine enquête. Mais quel est le crime? Pourquoi c'est à vous de devoir enquêter? Êtes-vous-même réellement un flic? Tout ceci, vous n'en avez aucune idée. Malgré l'impression que c'est sans doute important, vu que tout le monde vous hurle dessus que vous n'avez rien fait pour résoudre quoi que ce soit à part boire comme un trou. Cette perte de mémoire est l'excuse parfaite, à la fois pour offrir certains des dialogues les plus drôles auxquels j'ai pu assister, mais aussi et surtout pour permettre au joueur, à travers les questions de son personnage, d'en apprendre plus sur le monde qui l'entoure. Dans tous les cas, ce premier constat qu'alcool, mémoire et douleur ne font pas bon ménage sera un fil conducteur pour plusieurs autres réflexions tout au long de l'histoire. Quel genre de souffrance peut conduire un homme à s'autodétruire? Combien de secondes chances peut-on griller avant de ne plus avoir aucun espoir? Pourquoi tout est si difficile et la tentation d'abandonner si douce? Des thèmes abordés avec justesse et nuance, et qui sont surtout le reflet du début de la création du jeu. Parce qu'avant d'être un succès commercial et critique, avant même d'être une idée, Disco Elysium, c'est surtout un groupe de musique. Ultra Mélanol, c'est le nom d'un petit groupe de rock alternatif du début des années 2000 en Estonie. Basé à Tallinn, la capitale du pays, ils finiront par avoir de sérieux problèmes financiers aux alentours des années 2005, un souci qu'ils décideront de résoudre en fuyant la situation et en enchaînant les soirées, les drogues et l'alcool. Un état second permanent et une créativité sans faille qui va finir par leur donner une idée. Une de celles qui commence comme un délire de soirée mais qui petit à petit revient dans les conversations de journée, s'installe dans les réflexions et n'arrête plus de grandir. Ce qui avait commencé comme un petit délire se retrouve à être pensé sérieusement, à être travaillé, développé, jusqu'à ressembler à un projet concret sur lequel ils aimeraient tabler à l'avenir. Cette idée, c'est celle d'un monde dystopique, complètement déprimant mais hyper réaliste, à mi-chemin entre une Europe de l'Est futuriste et la Commune de Paris. Malgré le flou créatif qui entoure encore le projet, une première chose est sûre. Il sera traversé de part en part par une réflexion sur l'art, sur son importance, sur sa capacité à faire passer un message politique, sur la capacité des individus à créer n'importe quoi, n'importe quand, et surtout la nécessité de créer. Pas étonnant non plus quand on sait que pour concrétiser leur idée donc, le groupe de musique devient un collectif d'artistes plus généralistes, capable de gérer l'ambition de ce futur projet. Parmi cette bande de joyeux lurons, on retrouve surtout un peintre, Alexander Rostov, mais aussi un certain Kor Kender qui est écrivain. Retenez bien ces deux noms puisque c'est eux qui vont jouer un rôle déterminant dans la création de Disco Elysium. Histoire de voir si leur univers fonctionne vraiment et pour concrétiser un peu plus leurs idées, le groupe décide d'abord de faire de ce monde imaginé pendant leur beuverie un socle pour une campagne de donjons et dragons. Et pour cette campagne, Alexander, le peintre donc, va se charger de tout l'aspect visuel. C'est lui qui amène ce côté graphique très steampunk et révolutionnaire à l'œuvre. Poussé par cet engouement créatif, un troisième membre se rajoute à l'aventure, Robert Kurwitz, qui va carrément décider d'écrire un roman qui se déroule dans cet univers. Une véritable amitié va alors se former entre lui et Kor Kender qui lui apprendra les rudiments de l'écriture. Si bien qu'en 2013, ça y est, le roman est publié. Il est là, il est beau, c'est l'aboutissement de 8 ans de taf et surtout, c'est un bide monumental. Ils en vendent à peine plus de 1000 exemplaires alors que l'équipe était persuadée du potentiel de son univers. Une véritable douche froide et un retour à la réalité qui nous ramène à une de nos questions initiales. Quel genre de douleur peut amener un homme à plonger dans une addiction pour oublier sa souffrance? Apparemment, voir son rêve devenir une illusion est un élément de réponse. Suite à cet échec, Robert Kurwitz plonge dans une profonde dépression et dans l'alcoolisme pendant 3 ans. Un fait qui nous permet de mieux comprendre la justesse de ton dans le traitement de cette problématique au sein du jeu. Une problématique centrale même, puisqu'elle est le point de départ de l'intrigue. Une problématique centrale, justement, de laquelle découlent ou se greffent beaucoup d'autres, comme celle de la boucle de l'échec et l'impossibilité apparente de s'en sortir.
Carré, mon grand, tu le sais comment que t'es ivre si t'es jamais sobre?
Je veux pas être sobre! J'ai rien connu de mieux que cette nuit-là. La nuit où ma vie devait commencer pour de vrai. Toutes ces promesses, cet optimisme à la con, cette conviction qu'on allait conquérir tout l'univers. Du pipeau, tout ça. Il s'est rien passé.
Ça t'avancera à rien, ce que tu vas faire.
Si, je crois.
En partant d'un meurtre aux allures banales, Disco Elysium dérive ainsi vers des questions plus vastes. Au fur et à mesure que les réponses émergent, ces interrogations initialement pragmatiques finissent par atteindre un certain degré politique. Un homicide dont la portée dépasse largement le travail d'un inspecteur et qui donne au passage la liberté aux joueurs de réfléchir sur ses propres opinions politiques. on retrouve dans l'air planant de la ville fictive de Revachol des similitudes avec un concept créé par le philosophe Mark Fisher, les futurs perdus. Ce concept, c'est la persistance des choses du passé qui hantent notre présent, la nostalgie du futur. Comme il l'explique dans son livre « Ghost of My Life », ces futurs perdus représentent les espoirs placés dans l'avenir. C'est le fantasme d'un passé qui ne se résumerait plus simplement à « c'était mieux avant », mais plutôt à « avant, ça aurait pu aller mieux ». De nombreux personnages du jeu vivent dans l'ombre d'un futur qui a été écrasé sous leurs yeux d'une révolution violemment réprimée dans le sang. Disco Elysium est un jeu à dialogue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue.
Hello, officer.
Hello, I'm Kim Kitsuragi.
Oh, hello there.
Hello, mister.
Hello.
Dans tous ces dialogues, lorsque vous interagissez avec quelqu'un, vous aurez systématiquement le choix entre plusieurs options pour répondre à votre interlocuteur et orienter la conversation dans le sens qui vous intéresse. Mais la particularité ici, c'est que les réponses dont vous disposez à chaque échange sont déterminées par votre conscience. Une conscience fragmentée en 24 entités à cause d'une beuverie monumentale qui vous a fait oublier jusqu'à vos vêtements. 24 traits de personnalité distincts donc, qui vous parleront tout le temps et dans toutes les situations, donnant leurs avis, leurs conseils, vous encourageant ou vous répétant en boucle que vous êtes un échec sur pattes qui n'arrivera jamais à rien de bon. Et en fonction de ceux à qui vous distribuerez le plus de points d'expérience, certains vous parleront plus souvent ou plus fort que d'autres. Une encyclopédie, une logique et une rhétorique forte feront de vous un puits de connaissances capable d'arguments imparables dans une discussion. A l'inverse, autorité, douleur transcendée et esprit mécanique feront de vous un as du tir, capable de vous faire obéir des suspects les plus bravaches. Il appartient donc au joueur de naviguer entre toutes ces voies pour forger son propre chemin. Volontairement ou non, il se dégage par moments une véritable volonté d'espoir au travers de certains dialogues ou de certaines rencontres. Malgré la présence de certains traits de personnalité négatifs qui semblent constamment vouloir le pire pour notre personnage, il y a souvent dans les dialogues la possibilité de les envoyer chier et d'affirmer son envie de changer pour le meilleur. Alors, tentez de dialoguer au mieux avec vos 24 personnalités pour tenter de reconstruire une meilleure version de vous-même. Une qui ne boira plus jusqu'à l'oubli. Une volonté affirmée de vouloir et pouvoir changer, une volonté de se sortir de cet alcoolisme qui a amené notre personnage dans cette situation initiale, amnésique et nu dans une chambre d'hôtel détruite. Il y a donc de l'espoir à trouver, une possibilité offerte de faire changer sa propre histoire. Disco Elysium n'est pas un RPG qui vous laissera sauver ou changer le monde. Vous n'êtes qu'un flic alcoolique après tout. La seule chose sur laquelle vous pouvez avoir un impact, c'est vous-même. Disco Elysium porte une attention toute particulière à la difficulté d'accepter le passé, que ce soit de l'histoire avec un grand H ou d'histoire personnelle. Puisque Kurwitz, après un parcours probablement très difficile, puisqu'il en parle encore très peu en interview aujourd'hui, parviendra à combattre et à sortir de son alcoolisme. Un succès qui lui permet d'aider et d'accompagner son vieux pote écrivain Kaorkender à se sortir lui aussi de cet enfer. Pour le remercier d'avoir été là au moment le plus difficile de sa vie, Kender lui propose de décliner son roman en jeu vidéo. Un univers en maturation depuis une décennie, un univers qui voit enfin le jour après un nombre incalculable de difficultés, un univers qui porte enfin un nom, Elysium. Une expérience qui trouve aussi, enfin, un pitch concret à présenter au public et aux investisseurs. Un pitch tellement fantastique que je ne pouvais pas conclure cette chronique sans vous le lire. Donjons et Dragons, croisé avec une série policière des années 70 dans un univers de fantasy réaliste avec des épées, des pistolets et des voitures. Le jeu est un RPG en vue isométrique à la manière des légendaires Planescape Torment et Baldur's Gate. À vous le choix d'être un flic, bon flic, mauvais flic, femme flic, homme flic, un socialiste révolutionnaire déguisé en flic, un génie du crime avec des habits de flic, vous pouvez même être un flic qui a la flemme d'être flic. Résolvez des mystères de la façon qui vous corresponde, plongez-vous dans une énigme qui semble lier toutes les autres et tirer sur des gangsters. Rajoutez un complexe système d'interaction parcouru de thèmes sérieux comme l'échec des relations humaines ou une exploration des contextes socio-économiques qui entourent le monde du crime. Tout ceci sera mis en image par de magnifiques illustrations peintes à la main et animées en 3D. En bref, une direction artistique jamais vue auparavant, une histoire captivante, un monde à l'histoire riche et complexe et des personnages attachants. Un rêve qui n'attend que votre expérience. Plein d'autres péripéties conduiront à la sortie du jeu en 2019 et à son succès critique et commercial immense. Mais cette chronique touche à sa fin et je pense que vous avez compris où je voulais en venir avec tout ça. Au final, en dehors de tous les thèmes qu'il aborde, je crois surtout que Disco Elysium a résonné avec moi parce qu'il est la retranscription passionnée d'expériences vécues et ressenties. Il est l'expression sincère de tout un panel d'émotions qui ont traversé ses créateurs pendant des dizaines d'années. Il est un produit du cœur, une mise à nu totale et absolue de tout ce qu'ils ont pu éprouver, une œuvre d'art totale et absolue dans son résultat comme dans l'histoire de sa création. Tellement d'interrogations si bien écrites et si bien nuancées, un exploit de narration, une pépite d'introspection. Si toute cette chronique semble assez décousue, c'est parce que je n'ai pas encore eu le temps et le recul d'assimiler et d'analyser le complexe réseau de réflexions toutes liées les unes aux autres qui parcourent ce jeu. Malgré tout, je ne peux pas résister à vous partager celle qui m'a le plus marqué, celle qui l'a probablement aidé à devenir mon jeu préféré. Dans toutes les nombreuses options de dialogue qui s'offrent à nous, une récurrente est la possibilité de s'excuser, d'être désolé de tout, désolé d'exister, désolé de ne pas être assez bien, désolé de ne pas être assez capable, désolé de ne pas être assez tout court. Si vous choisissez ces dialogues assez souvent, vous déclencherez des conversations uniques avec certains personnages et avec votre monologue intérieur. Des conversations qui vous feront la leçon et qui tenteront de vous faire prendre conscience qu'on peut et doit tirer une certaine forme de fierté à faire des compliments et à les accepter quand on nous en offre. Parce qu'il n'y a rien de plus punk que d'affirmer sa gentillesse dans un monde qui tente trop fort pour son propre bien d'être désespérément plus cruel. Un petit combat de l'ombre. Une étincelle de révolte, un frisson d'insoumission se cache au creux de tous les merci répondus à un compliment et au centre de tous les compliments donnés à des personnes qui pensent à tort n'avoir rien accompli d'extraordinaire en réussissant à vivre. Voilà. Disco Elysium est un jeu profondément politique. Mais je n'ai pas le bagage nécessaire pour pouvoir vous décortiquer tous ces aspects-là, alors j'ai plutôt préféré prendre le temps de vous parler de son aspect émotionnel. Peut-être que le reste sera pour une prochaine fois. En attendant, je vais vous laisser avec Who Is She, Die Monster. Vous êtes toujours sur Radio Boomerang, 89.7. C'était Achille. À la prochaine. Oh, who is she? A misty memory, a haunting face. Is she a lost embrace? Am I in love with just a thief, or is Aisha?
see you.